France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invitée a choisi d'évoquer la première philosophe à avoir fait des femmes un sujet philosophique au double sens du terme, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui semble s'étonner ou pas que 20 ans après la publication du deuxième sexe, on lui parle encore des femmes.
Allons-y, parlons des femmes.
Ah, encore ?
Écoutez, ça intéresse tout le monde.
Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes aujourd'hui. Je pense que ça va même moins bien qu'au moment où j'écrivais le deuxième sexe. Parce que quand j'écrivais le deuxième sexe, j'avais un vif espoir que la condition des femmes allait profondément changer. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre, je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé. Et malheureusement, il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup qu'il l'est, mais pour des raisons inverses. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup aujourd'hui en France, et c'est un peu la même chose dans beaucoup de pays, que le féminisme s'est périmé, que le féminisme s'est démodé. Moi, je n'en crois absolument rien. Enfin, vous savez quelles sont mes idées sur la condition des femmes. C'est que, pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que, sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir profondément et de l'intérieur les égales des hommes.
Bonjour Manon Garcia.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe, professeur à la Freie Universität, Université libre de Berlin. Vous êtes autrice de 3 essais sur la soumission et le consentement. Le plus récent, écrit à la suite du procès Pellicot, s'intitule « Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellicot ». Il est paru aux éditions Climat. Et vous avez choisi de parler de Simone de Beauvoir. Alors, ça semble un petit peu logique au vu de vos travaux, mais en fait, est-ce que c'est un choix si évident que ça, Simone de Beauvoir, quand vous avez commencé à travailler sur elle? En France, finalement, c'était pas vraiment une figure qu'on convoquait régulièrement.
Ah non, aujourd'hui, c'est absolument évident pour moi que si on me dit « est-ce qu'il y a un livre, c'est le deuxième sexe ?» Mais c'est vrai que rien ne m'y prédestinait. C'est-à-dire que moi, au moment où j'ai été étudiante en France, on ne lisait pas Simone de Beauvoir et on la mettait un peu dans cette catégorie des autrices à succès, ce qui montrait bien qu'elles n'étaient pas très bonnes. Je me souviens, moi, quand j'étais en classe préparatoire...
Donc, c'était en quelle année, à peu près, pour qu'on voit l'époque?
Donc, moi, j'ai eu le bac en 2002. Et je me souviens, donc, pendant l'année scolaire 2004-2005, mon prof de lettres nous expliquait comme ça qu'il y avait les majoresses et les minoresses, donc les auteurs importants et les auteurs pas importants. Et c'était assez clair qu'il y avait très peu de femmes qui avaient droit de citer dans les majoresses et que, bon... voir, elle faisait partie des minoresses. Le seul truc qui était intéressant, éventuellement, pour certains professeurs chez Beauvoir, c'était son autobiographie. Et moi, effectivement, c'est comme ça que j'ai découvert Beauvoir très tôt, en fait. Ma prof de français de 4e nous avait fait lire Les mémoires d'une jeune fille rangée, ce qui est quand même assez moderne, rétrospectivement, et qui est un livre qui, moi, m'avait... vraiment bouleversée, que j'ai relu plusieurs fois, qui m'apparaissait vraiment résonner avec qui j'étais, avec ce que j'espérais de la vie et tout ça. C'est vraiment un livre qui a été très important pour moi. Et donc, voilà, à 17 ans ou 18 ans, je me retrouve un été un peu désœuvrée comme ça. Et puis, je me dis, j'étais en vacances toute seule, enfin, un truc un peu bizarre. Et je me dis, ah ben, je vais lire Le deuxième sexe. Et je commence à lire Le deuxième sexe et... En fait, au bout de 50 pages, 60 pages, j'arrête, ça me tombe des mains. Maintenant, ça me fait rire parce que je sais bien qu'en fait, le chapitre sur la biologie, qui est le premier chapitre du deuxième sexe, il paraît très facilement daté, qu'en fait, les choses les plus faciles et, à lire, le meilleur moyen de rentrer dans le deuxième sexe, c'est en fait le deuxième volume.
Sur l'expérience vraiment des femmes, sur l'adolescence, l'enfance.
Sur ce que c'est que d'être une femme, d'avoir un corps de femme.
D'avoir
de
ses règles.
Femme,
bon, en plus, à 17 ans, ça peut résonner.
Voilà, wow. Ça aurait pu, mais alors là, je me souviens d'avoir lu le chapitre sur la biologie, le chapitre sur le matérialisme historique. Je savais pas que ça voulait juste dire le marxisme à l'époque et tout. Je comprenais rien du tout. Donc ça m'est tombé des mains. Et j'y suis revenue hyper tard, en fait. J'y suis revenue... Donc moi, j'ai fait mes études de philosophie, notamment en France, et j'ai commencé une thèse sur la question de la soumission féminine. Et enfin, c'est dingue, en fait, quand on y pense. Ça ne m'avait pas effleuré de lire Simone de Beauvoir, même alors que j'avais commencé ma thèse et tout ça. Donc, je lisais Rousseau, je lisais Hegel, tout ça, mais je lisais pas du tout. Et je lisais un peu de la philosophie féministe contemporaine.
Mais anglo-saxonne.
Anglo-saxonne, mais jamais Beauvoir. Et j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et ma directrice de thèse co-organisait ce qu'on appelle en anglais, je sais maintenant, mais à l'époque, je connaissais pas la forme, un manuscript workshop, c'est-à-dire une sorte de colloque où différentes personnes font lire le manuscrit sur lequel ils ou elles sont en train de travailler à d'autres gens pour avoir des retours. Un truc, ça devrait être toujours comme ça, mais bon, moi, je connaissais pas ça à l'époque. Et donc...
Et qu'on ne fait pas en France, je crois. Enfin, ou peut-être, mais c'est pas très connu, en tout cas.
C'est pas du tout une forme qu'on connaît bien. Et donc, elle me dit, ce serait bien que tu fasses ce manuscrit de Nancy Bauer, c'est une copine, c'est super ce qu'elle fait, ça t'intéressera. Et je lis ce manuscrit, et cette philosophe, dont je sais désormais que c'est une des plus grandes philosophes sur Beauvoir, et elle a eu une influence absolument déterminante sur ma vie, mais elle parle de Beauvoir, et je me dis, oh là là, mais ça ressemble quand même vachement à ce que j'espérais faire, et tout ça. Et donc, je lis Le deuxième sexe, et là, il m'arrive la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui vient de commencer une thèse. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah, c'est ce que j'espérais faire, mais en mieux. Donc maintenant, il
va falloir que... À quoi ça sert de travailler là-dessus encore ?
Voilà, donc il va falloir que je me réorganise, quoi.
Vous avez envisagé même presque de vous dire, ce livre qui est paru en 49, comme elle le dit dans l'archive qu'on a entendu, qui date de 67, donc presque 20 ans après, n'est pas périmé. Il n'est toujours pas périmé dans les années 2000-2010. Bon, réactualisons-le, et puis c'est tout, mais pas la peine d'écrire en fait sur ce sujet.
Oui, je me suis posé la question de le réactualiser, mais je voyais pas très bien comment... En fait, je le trouvais tellement pertinent et tellement moderne qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire pour le réactualiser. Et puis, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment de la philo. Moi, on m'a fait passer ça pour une espèce de... moi, je me souviens, je l'avais lu en même temps que je lisais Vénus Erotica d'Anaïs Nin. Donc, je m'étais dit, c'est un peu des trucs de femmes qui écrivent des trucs un peu sexuels, un peu olé-olé, ça va être marrant et tout. Bon, en fait, non. Le deuxième sexe, qui est difficile, en particulier le premier volume, c'est que c'est de la philo hardcore. C'est vraiment... C'est sérieux, quoi.
Et pourquoi, selon vous, Simone de Beauvoir... Enfin, vous avez dû aller presque aux États-Unis faire ce détour-là pour découvrir une philosophe française, mais qui n'est pas en fait enseignée, explicitée, analysée en France. Comment vous expliquez en fait ce silence ?
Voilà,
c'est pour ça que je vous dis, c'est d'où ma première question de aujourd'hui, ça semble évident que vous convoquiez Simone de Beauvoir, mais en fait, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas tant de choses que ça, elle n'était pas convoquée.
Alors, moi, je vais être... c'est pas dans mes habitudes, mais sur ce truc-là, je suis vraiment immodeste. C'est-à-dire que je pense que c'est mon premier livre qui a vraiment changé ça. Alors que d'autres gens s'étaient attelés. Je veux dire, Michel Cale a énormément fait pour la réception de Beauvoir en France. Michel Ledeuf aussi. Mais en fait, on n'est pas soumise. Mon premier livre, je voulais en faire un livre qui introduirait la philosophie de Simone de Beauvoir à ceux qui et celles qui ne la connaissaient pas. Mais je savais que si j'écrivais un livre qui s'appelait « Philosophie de Simone de Beauvoir », personne n'allait le lire. Et que donc j'ai utilisé, mais comme dans ma thèse, le concept de soumission comme concept opératoire pour entrer dans le deuxième sexe. Et les gens l'ont lu et se sont dit « Ah, dis donc, marrant, Simone de Beauvoir !» Et quand même, un an plus tard, Simone de Beauvoir est rentrée dans le programme
De Terminal.
En fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est juste que le mouvement MeToo m'a permis de faire un livre « MeToo », entre guillemets, qui, en fait, a été une contribution à l'histoire de la philosophie. Mais je suis toujours très frappée, encore aujourd'hui, de beaucoup de mes collègues qui écrivent des livres sur Sartre, sur Lévinas, sur la philosophie française du XXe siècle, etc., dans lesquels elles ne figurent tout simplement pas. Ils ne l'ont tout simplement pas lu.
Parce qu'ils sont restés aussi sur des critères d'enseignement, de, comme vous disiez, minores, majores, entre des auteurs qui comptent, d'autres pas.
Oui, mais si vous voulez, en dehors de France aujourd'hui, Beauvoir est considérée comme une philosophe plus importante que Sartre.
Vraiment ?
Ah ouais, ça fait aucun doute.
Ça, aux États-Unis, par exemple, ou en Allemagne, où vous enseignez?
Ah oui, bah, quand même, il y a très peu de gens qui lisent Sartre aujourd'hui. Et elle, elle est vraiment lue, elle est dans tous les cours d'intro à la philosophie. Alors, évidemment qu'il y a un aspect de... c'est une façon de mettre une femme dans le syllabus qui est assez facile, etc. Mais il est de plus en plus reconnu qu'elle a permis de faire un passage de l'existentialisme comme théorie métaphysique, si on veut. Enfin, c'est un peu... Mais voilà, de l'existentialisme comme théorie métaphysique à l'existentialisme comme théorie sociale et politique. C'est elle qui a fait ce passage-là. Et ça me frappait, par exemple, il y a un homme qui est un extraordinaire spécialiste de Merleau-Ponty, qui s'appelle Emmanuel de Saint-Aubert, et qui montre dans le premier chapitre de sa grande œuvre sur Merleau-Ponty, qui est en 4 volumes aujourd'hui, je crois, il montre que le concept qu'il juge central chez Merleau-Ponty vient de Simone de Beauvoir. Et que tous les carnets de Merleau-Ponty montrent que c'est grâce à elle qu'il pense ce truc-là et tout ça. Mais quand on lit ce chapitre, donc du coup, il s'intéresse à cette théorie beauvoirienne, Emmanuel de Saint-Aubert.
C'est quoi ce concept central de Merleau-Ponty?
C'est le concept d'empiètement. Et il explique que la genèse du concept d'empiètement chez Merleau-Ponty, qui est pour lui un des concepts centraux, voire le concept central de la philosophie de Merleau-Ponty, vient de Simone de Beauvoir. Et il analyse du coup les romans de Beauvoir où ce concept est en germe. Mais en fait, il n'arrête pas de la présenter comme une intellectuelle, une romancière. Et il n'arrive pas à dire « c'est une philosophe ». C'est précisément une discussion de philosophe. Elle propose une théorie que reprend Merleau-Ponty, qu'affine Merleau-Ponty, que modifie Merleau-Ponty. C'est ça que font les philosophes quand ils se parlent. Mais on a du mal à imaginer qu'elle soit une philosophe. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'elle ne faisait que appliquer aux femmes ce que racontait Sartre. Enfin, moi, j'ai lu L'être et le néant de manière assez sérieuse. Ça n'est pas le même livre. Ce ne sont pas les mêmes théories. C'est pas la version féminine
de L'être et le néant.
Ils ont des désaccords. Je veux dire, L'être et le néant, c'est vraiment une tentative d'articuler, en fait, on pourrait presque dire ça, la philosophie de l'existence au sens allemand, la métaphysique traditionnelle et ce qui va devenir l'existentialisme au sens de l'existence humaine. Mais c'est une première version de ça et une version qu'on pourrait techniquement qualifier de solipsiste, c'est-à-dire que c'est vraiment une version qui est fondée sur l'idée qu'on est d'abord un individu qui ensuite va rencontrer le monde. Donc c'est lié à l'ego transcendantal husserlien, etc. Mais c'est une idée très... C'est d'abord un individualisme méthodologique. Et à l'inverse, chez Beauvoir, elle est influencée par sa propre lecture d'Heidegger, où elle dit ce que c'est que d'être un être humain, c'est d'abord le mitsein, donc c'est d'abord de vivre avec les autres. Et on se constitue comme individu à partir du fait qu'on vit avec les autres. Mais donc, ça, c'est des hypothèses métaphysiques de départ qui sont radicalement différentes.
Voire opposées, d'ailleurs.
Voilà, voire opposées. Et elle raconte dans ses mémoires, etc., qu'ils s'engueulent, vraiment. Il y a cette dispute entre, c'est quoi, en 42 ou en 43, où elle dit à Sartre, écoute, tu fais comme si une femme dans un harem et moi et toi, on avait la même liberté. Arrête, c'est simplement pas vrai. Et ils s'engueulent vraiment comme des... Et elle raconte qu'elle finit par céder parce que elle se dit, bon, je lui prouverai plus tard qu'il avait tort. Et je ne veux pas dire par là, et ça je pense que c'est très important, que ce serait par exemple Sartre qui lui devrait tout ou je sais pas quoi, mais je pense que la vérité c'est que ce sont deux philosophes qui vivent ensemble, qui se parlent toute la journée, tous les jours, qui s'écrivent des lettres quand ils sont pas ensemble, etc., qui du coup évoluent ensemble, mais qu'ils ont des points de vue différents sur les choses. Et que maintenant qu'on a accès aux journaux de jeunesse de Beauvoir avant qu'elle ne rencontre Sartre, on voit qu'il y a des thèmes dans son travail qui sont là bien avant qu'elle rencontre Sartre. Et que donc, c'est pas une adaptation des thèses de Sartre. Ce sont des gens qui pensent et qui vivent ensemble. Donc évidemment, ils s'échangent des idées, mais ils ont des points d'opposition, et notamment celui-là.
Quand vous découvrez, Manon Garcia, Simone de Beauvoir, non pas à 17 ans, mais plus tard, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous vous dites, philosophiquement, ça vous fait un choc ? Ou est-ce qu'il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre de presque existentiel ? C'est-à-dire vous dire, là, il se joue une question que je n'ai pas vue ailleurs, que je n'avais pas vue abordée de cette manière-là, la question qui me taraude, parce que quand on travaille sur des sujets de recherche, en général, sauf si c'est vraiment une commande d'un directeur de thèse ou d'une directrice de thèse, mais c'est de moins en moins le cas, c'est quand même des sujets qui nous portent, qui nous impliquent. Travailler sur la question de la soumission des femmes, quand on est une femme, je pense que ça tombe pas du ciel, c'est pas quelqu'un qui nous le suggère. Donc vous dites là, à ce moment-là, elle le formule d'une manière telle que c'est même un choc pas seulement intellectuel, mais plus corporel que ça, enfin plus, voilà, un choc.
Ah ben c'est vraiment un choc, et c'est un choc qui fait que, alors que j'étais partie aux États-Unis 3 mois vite fait comme ça, je me dis bon bah il faut que j'aille travailler avec Nancy Bauer. Toute la recherche aujourd'hui sur Beauvoir, ça se fait aux États-Unis. Il faut que je parte, et c'est chez elle que je vais trouver quelque chose qui est fondamental pour moi. Enfin, ça me paraît tellement délirant au moment où je lis Le Deuxième Sexe que ce livre ait été invisibilisé par la tradition philosophique, que tout d'un coup, ça m'apparaît tellement clairement que c'est la première fois qu'on prend au sérieux le concept de femme en philosophie, et que ça concerne quand même pas mal de gens dans le monde, le concept de femme en philosophie, qu'on prend au sérieux l'expérience de ce que c'est qu'être une femme, l'existence des femmes dans ses aspects sociaux, mais aussi anthropologiques, existentiels, biologiques, qu'on essaye de trouver des solutions. Je me dis, mais comment c'est possible que ce soit pas un livre qu'on lit autant que la critique de la raison pure ? Enfin, c'est une forme ou que Descartes ? Parce qu'il y a plein de parallèles, en fait, entre les méditations métaphysiques et Le Deuxième Sexe, mais les gens ne les voient même pas. Les gens n'arrivent pas à lire l'introduction du Deuxième Sexe comme une façon de poser les mêmes questions que dans les méditations métaphysiques, mais en disant, eh bien, ce que c'est que d'être une femme, c'est de ne pas pouvoir faire l'expérience du doute radical cartésien parce qu'on ne peut pas se dire à soi-même qu'on n'a pas de corps. Et ça, moi, je trouve que c'est une idée géniale. Elle dit, on nous dit tout le temps, attends, mais tu es un corps. Donc on peut pas faire ce que fait Descartes quand il dit « je peux faire ce doute jusqu'au doute de me dire peut-être que je n'ai pas de corps, peut-être que mon corps relève de mon imagination et tout ça. La seule chose dont je suis certain, c'est ma pensée, je pense donc je suis. » Elle dit « une femme n'a pas le droit, ne peut pas se raconter qu'elle n'a pas de corps. » Et ça fait que les méditations métaphysiques, il va falloir les actualiser au féminin pour réfléchir à ce que c'est que le cogito pour une femme. Je veux dire, pourquoi c'est pas...
Pourquoi tout le monde n'en parle pas ?
Voilà, pourquoi tout le monde n'en parle pas ? Pour moi, c'est dément au moment où je lis le Deuxième Sexe. Pour moi, l'introduction du Deuxième Sexe, alors maintenant, c'est comme ça que je l'enseigne, etc. Mais l'introduction du Deuxième Sexe, on peut la voir véritablement comme la feuille de route de tout ce qui va devenir, voilà, l'existentialisme social et politique, mais aussi ce qu'on va appeler les théories du point de vue en philosophie féministe. Enfin, je sais pas, il y a des choses sur même de philosophie des sciences qui sont extrêmement intéressantes, où elle et d'épistémologie, quand elle dit, voilà, qui peut répondre à la question « qu'est-ce qu'une femme ?» Elle dit... les hommes et les femmes sont jugés partis. Et elle dit, mais il y a une toute petite partie des gens dont je fais partie qui, à la fois, sont des femmes, mais sont traitées à cause des études qu'elles font, etc., et du type de liberté qu'elles ont réussi à acquérir, aussi un peu comme des hommes. Et ça nous met dans une situation où on peut être de chaque côté de la différence des sexes. Et en fait, c'est fascinant parce que ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, mais c'est que c'est vraiment une idée qu'elle tire du Boyce, le philosophe américain des questions raciales, etc., qui est la question du voile, de la façon dont lui il se situe lui-même en étant le premier homme noir qui fait une thèse à Harvard. Il dit « ça me permet... d'être blanc par moment, d'être noir par d'autres, et donc d'avoir accès à une forme de distance face à la blancheur et face à la noirceur, d'une certaine manière, qui me permet de dire quelque chose de ce que c'est que le problème racial aux États-Unis. » Mais elle dit la même chose, en fait. Elle dit « ma position de femme qui a pu faire des études, qui a agrégé de philosophie, etc., et de femme qui a été éduquée comme une femme me permet de voir les choses de deux côtés. C'est épistémologiquement extrêmement intéressant et fondamental pour la suite de l'histoire des idées.
Le mythe de la femme joue un rôle considérable dans la littérature. Mais quelle importance a-t-il dans la vie quotidienne ? Dans quelle mesure affecte-t-il les mœurs et les conduites individuelles ? Pour répondre à cette question, il faudrait préciser les rapports qu'il soutient avec la réalité. Il y a diverses sortes de mythes. Celui-ci, sublimant un aspect immuable de la condition humaine, qui est la section de l'humanité en deux catégories d'individus, est un mythe statique. Il projette, dans un ciel platonicien, une réalité saisie dans l'expérience ou conceptualisée à partir de l'expérience. Au fait, à la valeur, à la signification, à la notion, à la loi empirique, il substitue une idée transcendante, intemporelle, immuable, nécessaire. Cette idée échappe à toute contestation puisqu'elle se situe par-delà le donné. Elle est douée d'une vérité absolue. Ainsi, à l'existence dispersée, contingente et multiple des femmes, la pensée mythique oppose l'éternel féminin unique et figé. Si la définition qu'on en donne est contredite par les conduites des femmes de chair et d'os, ce sont celles-ci qui ont tort. On déclare non que la féminité est une entité, mais que les femmes ne sont pas féminines. Les démentis de l'expérience ne peuvent rien contre le mythe.
Extrait du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est un extrait du premier tome, troisième partie, troisième chapitre sur les mythes, un texte que je pensais avoir lu, mais en fait j'ai eu une édition, Manon Garcia, figurez-vous, je m'en suis rendu compte grâce à vous, qui était tronquée de cette partie, donc je n'avais jamais lu ce passage-là. Pourquoi avoir choisi précisément ce passage du deuxième sexe ?
Parce que justement, ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'il y a ce troisième chapitre de la troisième partie du premier volume que très peu de gens lisent.
Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu une édition tronquée.
Alors, parce qu'il y a cette édition tronquée, donc là j'hallucine que Gallimard ait publié une édition tronquée sans rien dire à personne.
Oui, aucune mention, effectivement.
C'est parce qu'on sait, par ailleurs, qu'il y a un problème d'édition tronquée côté anglophone. Parce que toute l'histoire de la traduction du deuxième sexe, c'est que la traduction du deuxième sexe en anglais a été faite par un biologiste qui a enlevé les passages avec qu'il trouvait pénibles. Donc il a enlevé plein de trucs qu'il trouvait relous, quoi. Donc il manque un tiers. Un tiers, hein.
Il a enlevé énorme.
Un tiers du texte. Et il a réécrit le chapitre sur la biologie parce qu'il
n'était
pas d'accord.
Faux.
Et donc, moi, j'ai eu ce truc-là quand j'ai commencé à lire la littérature secondaire sur Beauvoir en anglais. Je me disais, mais elles n'ont vraiment pas du tout compris le chapitre sur la biologie. Elles sont vraiment bizarres et tout ça. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'est juste qu'elles lisaient un truc qui n'était pas du tout ce qu'avait écrit Beauvoir. Mais en fait, le premier volume du deuxième sexe, même quand on l'a in extenso, à cette partie très longue de critique littéraire, qui est très rébarbative pour les gens qui connaissent mal la littérature française du XXe siècle et qui est un peu datée par certains aspects, dans laquelle Beauvoir règle un peu ses comptes avec Monterland notamment. Et il y a ce troisième chapitre qui est très court et qu'on oublie en fait, parce qu'on se dit « Oh là là, on s'est tapé les 100 pages sur Claudel, les 100 pages sur Monterland et tout ça. » Donc on oublie de lire ce troisième chapitre. Or, ce troisième chapitre, c'est un chapitre crucial du deuxième sexe, puisque c'est la question, c'est le moment où elle se dit « Comment le mythe et la réalité des femmes d'aujourd'hui fonctionnent ensemble ?» Et moi, ce troisième chapitre, par exemple, il est absolument crucial dans mon interprétation ou dans la compréhension que j'ai eue du procès Mazan. Parce que ce qu'on voit au procès Mazan, c'est qu'il y a ces hommes qui ont des mythes de la femme. Dominique Pellicot dit Gisèle, c'est ma sainte, mon héroïne. Et les autres, ils disent ma femme, c'est mon infirmière, c'est
ma sœur, ma mère. Sœur.
Mais ils ont que des espèces de projections idéalisées de la femme, qui est en fait ce que Beauvoir appelle l'éternel féminin. Mais on comprend que la vraie vie des femmes avec qui ils vivent ne les intéressent pas. Et que même Dominique Pellicot, alors même qu'il a passé 50 ans avec Gisèle Pellicot, etc., il la voit, il est tout le temps pris dans La maman et la putain. Il est tout le temps pris dans des mythes contradictoires, exactement comme Beauvoir a expliqué, donc là, dans le premier chapitre de la section mythes, qu'il y a ces mythes contradictoires dont elle explique, et ça c'est fondamental, qu'ils nuisent aux hommes. Elle dit, les mythes que les hommes inventent sur la féminité font que la quête sentimentale, amoureuse et sexuelle est toujours décevante, pour les femmes comme pour les hommes, mais surtout pour les hommes. Et donc là, ce troisième chapitre, il nous montre comment il est difficile pour les hommes de rencontrer des femmes, comme êtres humains, parce que ces mythes-là font écran et les empêchent d'entrer dans cette relation de réciprocité et de reconnaissance réciproque qui est le fondement de l'amour, qui est le fondement d'une relation humaine authentique.
Et même d'une vie en société, d'une certaine manière. C'est-à-dire pas seulement amoureuse ou amicale, mais vraiment en fait de travailler avec quelqu'un qui n'est pas de son sexe.
Voilà, juste de considérer, ça paraît toujours, je sais que ça braque les gens quand je dis ça, mais de considérer les femmes comme des êtres humains. Mais en fait, ce qu'elle montre dans ce chapitre, c'est que considérer les femmes comme des êtres humains, c'est pas juste une phrase, c'est comprendre qu'elles ont des désirs, des plaisirs, des buts, des projets, des façons de vivre le monde, etc. Qu'elles sont des êtres de chair et d'os et de pensée et de désir, et que ça, c'est beaucoup plus difficile que de leur projeter la maman et la putain dessus.
Mais vous l'avez dit, Manon Garcia, et c'est dans le texte qu'on vient d'entendre de Simone de Beauvoir, cette idée de femme, de chair et d'os, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on voit ici dans ce texte que d'un côté, Simone de Beauvoir semble pessimiste à la fois pour les hommes, mais d'abord pour les femmes, puisqu'à la fin, elle dit « les démentis de l'expérience ne peuvent rien contre le mythe », c'est-à-dire qu'il y a quand même une condamnation à l'impuissance, une fatalité qui semble s'abattre, et pourtant, c'est justement dans cette idée de chair et d'os qu'on voit aussi toute la philosophie de Simone de Beauvoir, qui est à l'inverse de celle de Sartre, je reprends ce que vous avez dit au début, n'est pas dans une solitude, un solipsisme, mais vraiment est, en fait, dans l'expérience. Ça, c'est quelque chose de radicalement neuf qu'elle a fait, Simone de Beauvoir. C'est vraiment se dire, on peut faire de la philosophie avec de la chair et des os.
Alors, c'est pas la seule. C'est une, elle, en fait, on peut considérer que sur ce plan-là, elle poursuit une certaine conception de la philosophie proposée par Husserl sur ce que c'est que la philosophie incarnée, mais elle dit bah la philosophie incarnée, c'est pas incarné pareil si on est un homme ou si on est une femme. Et encore, là, on retrouve le cogito féminin qu'elle construit, c'est qu'en fait, les femmes ne peuvent pas prétendre ne pas être incarnée. Et donc, elle réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir prétendre ne pas être incarnée. Et c'est ce que je montre à la fin de mon deuxième livre, La conversation des sexes, c'est qu'en fait, paradoxalement, elle pense que ce truc-là n'est pas une faiblesse pour les femmes, mais au contraire, leur possibilité d'échapper à la mauvaise foi. Alors, j'explique ce que c'est assez subtil, mais je trouve ça vraiment passionnant. C'est qu'elle dit, au fond, ce que c'est que d'être un être humain, c'est être à la fois esprit et chair, à la fois objet et sujet, qu'on est profondément, métaphysiquement, des êtres ambigus. D'où son livre sur « Pour une morale de l'ambiguïté ». Et donc, son idée métaphysique d'ambiguïté, c'est celle-là. Et elle dit, en fait, les mythes de la féminité et le pouvoir des hommes les autorisent à ne se croire que sujet. Et la façon dont ils sont dans leur corps, quand ils sont des petits garçons, etc., on les autorise à ne se croire que sujet, à ne se croire que des êtres qui vont conquérir le monde, des êtres qui doivent escalader, voyager, être... Donc elle montre comme il y a une sorte de cohérence entre la biologie masculine, et aussi le pénis et les symbolismes, etc., sur la biologie masculine, et la vie des hommes comme vie de sujet et de conquête. Et elle dit, mais les femmes... D'un côté, elles ont ça, elles se sentent sujets, etc. Et en même temps, le monde entier leur dit « Non, non, vous êtes des objets. Vous devez être conquises, vous devez être séduites, vous devez attendre, vous devez ne pas bouger, vous devez...
Vous devez être prise
la
aussi.
La femme qu'on désire, etc. Vous devez être prise. » Elles sentent tout le temps cette tension entre « Ah bon, mais je dois être un sujet, mais je dois être un objet, mais comment ça marche, etc. » Et elle dit, au fond, c'est ce qui leur permet d'accéder à une expérience érotique beaucoup plus juste, parce que le sexe est l'endroit où, quand ça marche bien, on est sujet et objet. Mais ça lui permet aussi de proposer une critique hyper radicale et sans pitié d'une certaine philosophie. Donc moi j'adore, il y a cette note de bas de page absolument assassine sur Lévinas dans l'introduction, parce que Emmanuel Lévinas a toute sa théorie du visage comme l'autre, comme ouverture à la morale. Et elle le cite où il dit « l'altérité s'accomplit dans le féminin ». Donc vous voyez cette idée « l'autre c'est la femme c'est l'autre ». Et elle dit « je suppose que monsieur Lévinas n'oublie pas que la femme est aussi pour soi conscience. Mais il est frappant qu'il adopte délibérément un point de vue d'homme sans signaler la réciprocité du sujet et de l'objet. » Quand il écrit que la femme est mystère, il sous-entend qu'elle est mystère pour l'homme, si bien que cette description qui se veut objective est en fait une affirmation du privilège masculin. Et en fait, c'est hyper fort parce qu'elle dit « Ok, si vous êtes hétéro, c'est normal que vous considériez que l'autre c'est la femme, mais pour moi l'autre c'est l'homme. » Et au fond, il faut qu'on se constitue dans un rapport réciproque entre le sujet et l'autre, et comment on construit cette vie entre le sujet et l'autre. Et là, elle dit, les femmes, elles peuvent pas se raconter qu'elles ne sont jamais l'autre. Et elles ont du coup accès à cette ambiguïté de façon plus directe que les hommes qui peuvent se dire « Ah non, moi je ne suis que sujet, je suis l'autre pour personne, etc. » Et qui du coup loupent la vraie existence humaine, qui est l'existence d'être sujet et objet, d'être l'un et l'autre, et de prendre plaisir aussi à la passivité comme à l'activité, et de se reconnaître dans cette activité-passivité.
Mais est-ce que, pour autant, Simone de Beauvoir, à la fin du deuxième sexe, s'il y a vraiment une fin, et j'entends par là une résolution, nous dit, en fait, renoncer aussi à cette philosophie du sujet définie d'une manière neutre, universelle, presque roi du monde, pour penser aussi un sujet qui soit plus un sujet dans le monde, ou au contraire même, est-ce qu'elle veut éradiquer le sujet et dire en fait, repensons autrement, même anthropologiquement, un être humain, autrement qu'en termes de sujet et d'objet ?
Alors non, justement, et c'est là qu'elle est vraiment pas post-structuraliste ou post-moderne, c'est-à-dire qu'elle croit au sujet, mais elle dit... Le sujet sans l'autre, ça n'existe pas. Et il y a ces pages que moi, je trouve vraiment très, très fortes sur la puberté, où elle raconte qu'au fond, toutes les femmes font à un moment l'expérience de la puberté, qui est une expérience dans laquelle elles sont encore des petites filles, elles marchent dans la rue, je sais pas quoi, et tout d'un coup, un homme, ça peut aussi être le vieil oncle dans une réunion de famille et tout ça, lui dit un truc sexuel. Leur dit un truc sexuel du type « alors, les seins ça pousse » ou « alors, bonjour mademoiselle », je sais pas quoi. Plein de formes différentes de sexualisation. Et elle montre que là, la petite fille devient femme en se sachant vue et en se voyant vue. Et qu'en fait, son corps, la chair féminine, est cette expérience d'être un corps pour l'autre avant que d'être un corps pour soi. Et qu'elle montre que c'est vraiment comme ça que se constitue l'expérience pour les femmes de leur propre corps comme quelque chose de bizarre qui fait de l'effet aux autres avant de leur faire de l'effet à elles-mêmes, et que c'est dans cette ambiguïté-là de l'incarnation que se constitue le sujet féminin. Et que les hommes, ils peuvent se raconter que leur corps n'est que pour eux, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez toujours des types qui vous disent « Oh là là, je suis allée dans le marais, je me suis pris une main aux fesses, horrible !» Et les femmes disent « Bon, bienvenue dans notre monde. Enfin, moi, ça fait depuis que j'ai 11 ans que ça se passe comme ça. » Mais où eux, ils sont très frappés par cette expérience de découvrir leur corps comme un objet pour d'autres, alors que l'expérience incarnée de la féminité, c'est cette expérience-là de se savoir pour les autres avant que d'être pour soi. Et ça veut dire que Beauvoir, elle ne dit pas « faut renoncer au sujet », mais elle dit « il faut comprendre qu'on est tout le temps des sujets en relation avec d'autres sujets pour qui nous sommes des objets, et que cette réciprocité-là, il faut la vouloir authentique et comprendre que c'est par elle que notre liberté est possible ». Parce que ça, c'est un des aspects de ses premiers livres, donc « Pyrrhus et Cinéas » et « Pour une morale de l'ambiguïté » qui sont moins lus, c'est qu'en fait, elle montre que les autres sont fondamentaux dans l'existence même de ma liberté. Elle raconte ça dans « Pyrrhus et Cinéas » d'une manière que je trouve très forte, c'est qu'elle dit « Prenons l'exemple de quand on écrit un livre. Une fois que j'ai écrit un livre, il ne compte plus pour moi. Mais il ne compte que si il devient la base du projet de quelqu'un d'autre. » Moi, par exemple, on n'est pas soumise, mais vivre avec les hommes, c'est pareil. Ce sont des livres qui ne comptent plus pour moi, à part s'ils aident d'autres gens à concevoir leurs projets, à penser leur vie, à faire quelque chose. Sinon, c'est des bouts de papier avec des écritures dessus, c'est fini pour moi. Et donc, elle montre qu'on a tout le temps besoin que d'autres continuent nos projets pour que nos projets aient du sens. Et qu'on a du coup besoin que d'autres continuent notre liberté pour que notre liberté ait du sens. Et donc cette réciprocité-là, du sujet et de l'objet, elle est fondamentale pour qu'il y ait du sens dans le monde. Quand on est tout seul, il n'y a pas de sens pour elle.
Chez l'homme, il n'y a entre vie publique et vie privée aucun hiatus. Plus il affirme dans l'action et le travail sa prise sur le monde, plus il apparaît comme viril. En lui, valeurs humaines et valeurs vitales sont confondues. Au lieu que les réussites autonomes de la femme sont en contradiction avec sa féminité, puisqu'on demande à la vraie femme de se faire objet, d'être l'autre. Il est très possible que sur ce point, la sensibilité, la sexualité même des hommes se modifie. Une nouvelle esthétique est déjà née. Si la mode des poitrines plates et des hanches maigres de la femme et faible n'a eu qu'un temps, on n'en est cependant pas revenu à l'opulent idéal des siècles passés. On demande au corps féminin d'être chair, mais discrètement. Il doit être mince et non alourdi de graisse. Musclé, souple, robuste, il faut qu'il indique la transcendance. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile aux femmes d'assumer à la fois leur condition d'individu autonome et leur destin féminin. C'est là la source de ces maladresses, de ces malaises qui les font parfois considérer comme un sexe perdu. Et sans doute, il est plus confortable de subir un aveugle esclavage que de travailler à s'affranchir. Les morts aussi sont mieux adaptés à la terre que les vivants. De toute façon, un retour au passé n'est pas plus possible qu'il n'est souhaitable. Ce qu'il faut espérer, c'est que de leur côté, les hommes assument sans réserve la situation qui est en train de se créer. Alors seulement la femme pourra la vivre sans déchirement.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Toujours un extrait du deuxième sexe et toujours donc de ce premier volume, troisième partie, troisième chapitre sur les mythes. Manon Garcia, lu par Anaïs Isbert, une phrase m'a frappée dans ce texte. Il est plus confortable de subir un aveugle esclavage que de travailler à s'affranchir. Les morts aussi sont mieux adaptés à la terre que les vivants. Vous avez travaillé sur la soumission, sur le fait de se soumettre volontairement à sa propre soumission. Est-ce que c'est cette phrase-là qui a fait que vous avez choisi ce texte en particulier ?
C'est en partie cette phrase-là, mais pas seulement sur son contenu, mais aussi sur son ton. C'est-à-dire que ce que les gens ne voient pas, c'est qu'elle est tellement drôle, tellement sarcastique, tellement... Je veux dire, elle écrit quand même ce livre qui, en fonction des éditions, fait à peu près, disons, 1200 pages. Et elle commence en disant, vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout, la question des femmes. Je trouve ça vraiment saoulant. Donc, elle commence comme ça, elle dit, c'est vraiment hyper pénible comme sujet. Et elle n'arrête pas d'être grinçante comme ça, de dire les morts, tout ça, sont plus adaptés que les vivants. Elle pointe toujours du doigt avec un esprit ravageur et très drôle toutes les contradictions du monde dans lequel nous vivons. Et là-dessus, je trouve que c'est aussi un livre très exaltant, en fait, parce que on la sent derrière. On la sent elle-même prise dans les conflits qu'elle décrit, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je la trouve un peu trop sévère. Pas au sens où on la présente comme quelqu'un de sévère, etc. Mais sur la question de la soumission, je la suivais assez dans N'est pas soumise. J'étais quand même très convaincue par ses analyses, mon premier livre, sur la façon dont, en fait, ce que je trouve qui est très fort, c'est qu'elle montre que la soumission est séduisante. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle est séduisante pour tous les êtres humains, parce que c'est de toute façon séduisant d'abandonner l'angoisse existentielle pour laisser à quelqu'un d'autre le choix de diriger notre vie, enfin, le choix de quelle vie on devrait mener. Donc elle dit tout le monde est tenté par la soumission. Mais elle dit que les femmes, à cause de ce destin qui est écrit pour elles, elles savent qu'elles vont être punies socialement si elle s'essaye à autre chose que la soumission. Et que donc la soumission n'est pas un choix, mais est une forme de consentement à un destin qui les précède et auquel elle s'adapte. Au fond, Beauvoir, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de randonnées, donc je trouve que c'est une métaphore qui va très bien avec son expérience à elle. On peut dire que la soumission pour les femmes, c'est comme si vous allez marcher en montagne, et il y a ce sentier qui est balisé tous les 50 mètres. Vous avez le rouge et le blanc, là, du GR et tout ça. Vous savez que vous pouvez aller par là, que des gens ont pris ce chemin 1000 fois, qu'il va aller au sommet où vous voulez aller, etc. Et puis ensuite, vous voyez que vous pouvez tracer tout droit dans la montagne pour aller là où vous avez décidé d'aller vous. Mais il y aura peut-être des vipères, il y aura de la caillasse, il y aura des plantes qui vont vous griffer, etc. Et vous ne savez pas si en passant par là, vous n'allez pas tomber sur une falaise qui va vous empêcher d'arriver en haut. Et qu'au fond, elle dit, c'est un peu ça le choix pour les femmes. C'est que la soumission, c'est le chemin balisé. Alors que pour les hommes, la liberté, c'est le chemin balisé et la soumission, c'est l'inconnu. Et donc elle dit, là, il y a une vraie différence de genre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très convaincant. Mais ce que j'ai vu dans le procès Pellicot, ça paraît bizarre de dire ça, mais au fond, Dominique Pellicot, il est obsédé par la soumission ou l'insoumission de Gisèle Pellicot. Et à la fin du procès, lors de sa dernière prise de parole, il dit « J'ai bien réfléchi sur mon mobile et je pense que mon mobile a été de soumettre une femme insoumise. » Alors moi, évidemment, quand j'entends ça, c'est du pain béni pour moi. C'est vraiment mon concept et tout ça. Et par ailleurs, il y a ces vidéos atroces où il met des sortes d'écriteaux sur Gisèle Pellicot en disant « Je suis une salope soumise ». Donc on sent que cette question de la soumission le travaille beaucoup. Et ce qu'on comprend, en fait, dans ce procès, c'est que Gisèle Pellicot, au moment où elle prend sa retraite, commence à ne plus se soumettre à Dominique Pellicot. Elle se met à refuser certaines demandes sexuelles qu'il a, qu'elle ne refusait pas avant. Et comme ils ont déménagé dans le Midi, mais que les petits-enfants et les enfants sont encore en région parisienne, elle le quitte à toutes les vacances scolaires pour aller s'occuper des petits-enfants. Et que lui, il décide que ça lui est tellement insupportable qu'il va la soumettre chimiquement. Et que, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il se dit, ou bien elle se soumet de son plein gré, ou bien je la soumets. Et donc, on se dit, est-ce que le choix pour les femmes, c'est pas plutôt ça? C'est pas plutôt, est-ce qu'elle se soumet de son plein gré, ou est-ce qu'elle va être soumise chimiquement,
malgré
par la violence, etc. Non, mais c'est aussi le rôle de la violence domestique, le rôle de plein de choses pour obtenir la soumission des femmes. Et que c'est au contraire une forme de sexisme très grand que de voir la soumission comme un choix. Parce qu'en fait, c'est comme... je fais un parallèle un peu étrange, mais quand j'ai travaillé sur la conversation des sexes, j'ai lu beaucoup d'études de psychologie et de sexologie sur le viol, où il apparaît très clairement qu'une des raisons principales pour laquelle les femmes ou des femmes acceptent des rapports sexuels qu'elles ne veulent pas, paradoxalement, c'est par peur du viol. C'est-à-dire qu'elles se disent « si je dis non et que je le repousse, il va me violer violemment ». Donc au fond, je préfère être... me raconter à moi-même que c'était pas un viol et que j'ai cédé, plutôt que d'être violée violemment. Et on comprend qu'en fait, dans la soumission, il y a peut-être un peu le même truc de se dire « il vaut mieux être soumise et que ça ait l'air d'être mon choix, plutôt qu'il me tape dessus ou qu'il m'oblige ou qu'il m'enferme ou qu'il me soumette chimiquement ». Et ça, c'est vraiment hyper déprimant.
Mais c'est là où il y a une différence entre... Parce qu'on parle de choix, mais c'est là aussi où intervient le concept de consentement. C'est-à-dire que le consentement, a priori, apparaît comme une sorte de choix par défaut. On consent, semble être plus passif que de choisir. On ne choisit pas en disant « je vais me soumettre ». On va dire « je consens à avoir ce rapport sexuel parce que ça me semble moins... » compliqué pour me raconter après que j'étais d'accord.
Mais en tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai pris le concept de consentement dans ma thèse et dans mon premier livre. Donc, quand je disais consentir à sa soumission, je pense que les femmes consentent à leur soumission au sens où c'est pas leur premier choix et où c'est quelque chose que la société leur propose et qu'elles ne refusent pas forcément. Mais le modèle anglophone libéral du consentement sexuel, c'est censé être vraiment de l'ordre du choix. Et là, il y a vraiment une tension entre eux. Moi, je pense que dans un monde aussi sexiste que le nôtre, dans un monde où il y a autant de violences sexuelles que le nôtre, etc., le choix sexuel de beaucoup de femmes est plutôt de l'ordre du consentement que d'une véritable expression de ce qu'elles veulent. Et qu'il faut pouvoir changer la société avant même d'avoir accès à ce qu'on veut. Parce que c'est pour ça que j'ai écrit la conversation des sexes après On n'est pas soumise, c'est que je me suis dit, au début j'étais très convaincue par le côté américain, non ça veut dire non, mais surtout seulement oui ça veut dire oui. Mais en fait, si vous êtes éduquée à toujours mettre les désirs des autres devant les vôtres, à toujours vous dire être une bonne femme, c'est être sexy, être mince, être une bonne maman, être une bonne une personne qui parle pas trop fort, qui fait pas trop ci, qui fait pas trop ça, qui est
gentille. Avoir telle fréquence de rapport sexuel.
Voilà. Où est-ce qu'il est votre désir ? Est-ce que vous pouvez savoir ce qu'il est votre désir ? Et du coup, d'où consent-on ? Est-ce qu'on consent d'une place où on n'a pas accès à une subjectivité qui serait protégée de l'oppression, etc., où on ne sait pas ce qu'on désire? Est-ce qu'on peut vraiment savoir ce qu'on veut en dehors des normes de genre? Moi, je trouve que c'est une question vraiment hyper vertigineuse.
Ce serait presque à se poser la question, est-ce qu'on pourrait se placer en dehors de la société pour savoir ce qu'on aurait voulu de manière presque pure?
Voilà. Et en même temps, moi, je trouve que cette idée qu'on aurait une subjectivité qui existerait en dehors de notre socialisation me paraît complètement fausse. J'ai pas l'impression qu'on pourrait dire enlevons ce patriarcat et puis je vais me retrouver moi-même. Ce que je suis est aussi façonné par le patriarcat et par plein d'autres dominations sociales. Je suis plutôt une bourgeoise, mes désirs sont des désirs de bourgeoise, je suis universitaire. Tout ça compte dans qui je suis. Donc, c'est pas que je pense qu'il y a un en dehors de tout ça. Mais c'est que je pense que faire comme si qui je suis n'était pas social et que ce que je peux penser que je veux et que je désire ne serait pas social est forcément faux. Et donc, si ce qu'une femme a le droit de désirer ou de vouloir est tellement façonné par la société, est-ce que quand elle dit oui, ça veut dire oui? Et quand elle dit non, ça veut exactement dire non? Je veux dire, par exemple, si vous suivez, moi je suis avec consternation tout le débat sur le body count. Donc pour celles et ceux qui ont été protégés de ce discours vraiment débile, je les envie. Mais en gros, l'idée, on appelle l'expression body count en anglais, normalement, elle est de combien de gens vous avez tués quand vous êtes soldat ou policier, etc. Et c'est devenu une expression, disons, de la manosphère, etc., pour dire avec combien de femmes vous avez couché, et donc, ou avec combien d'hommes vous avez couché. Et donc, il y a eu cette vidéo qui est devenue virale sur, je ne sais plus ce que c'était, l'idée qu'une femme avec un body count de 5, il fallait la jeter à la poubelle, que c'était une pute, etc. Là, on voit bien que s'il y a cette idée qu'un homme, plus il aura eu de partenaires sexuels, plus il sera puissant, et qu'une femme, si elle a eu plus qu'un ou deux partenaires sexuels, elle n'est plus pure, etc. Bah, évidemment que ça a un effet sur ce qu'on s'autorise à désirer. Tout le truc, moi c'est ce dont je parle implicitement dans Vivre avec les hommes, mais tout ce truc de dire c'est la testostérone qui fait que les hommes ils ont envie de coucher avec toute la planète et que les femmes elles n'ont envie que de partenaires qu'elles aiment, etc. C'est peut-être aussi le body count. C'est-à-dire que si on pense que c'est super de coucher avec plein de filles, mais que c'est vraiment la preuve qu'on est un déchet d'avoir couché avec plusieurs hommes, ça va avoir un effet sur nos désirs. Donc tout ça fait que cette question du consentement ou du choix, c'est pas comme choisir entre du thé et du café.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puissent se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
Madame Philippot, vous êtes satisfaite des peines ?
Écoutez, je respecte la Cour et la décision du verdict.
Après près de 4 mois d'audience, la Cour criminelle du Vaucluse a rendu son verdict concernant les 51 accusés du procès des viols de Mazan sur Gisèle Pellicot, devenue symbole des violences faites aux femmes. Les enfants de Gisèle Pellicot, présents dans la salle d'audience, ont déclaré être déçus par la faiblesse des peines. Devant le tribunal, la foule a aussi exprimé sa déception.
Honte à la justice ! honte à la justice.
On a des peines qui sont ridiculement basses. Donc la honte a changé de camp, non. La honte n'a pas changé de camp. La honte, c'est la justice maintenant qui l'a, la honte. C'était l'occasion que la justice soit à la hauteur des femmes. Et là, on voit que la justice, non, n'est pas à la hauteur des femmes. On est furieuse contre cette justice qui nous méprise. Pour nous, c'est la culture du viol qui continue.
C'était le 19 décembre 2024, le jour du verdict du procès Pellico auquel vous avez assisté, Manon Garcia. Vous en avez parlé de votre livre « Vivre avec les hommes » qui a été écrit pendant et à la suite de ce procès Pellico. Vous y livrez un ensemble de réflexions, des questions sur la position de la bonne victime, par exemple, position sur...
Là, on entend vraiment la bonne victime.
Voilà, c'est-à-dire qui est d'accord avec le verdict, alors que les militantes, les soutiens, trouvent que c'est une honte et que la honte est du côté de la justice. Est-ce que c'est à cet endroit-là que vous pensez que Simone de Beauvoir a été peut-être trop sévère, c'est-à-dire vraiment trop sévère sur le fait que les femmes ne choisissent pas délibérément d'être soumises, mais vraiment on voit aussi que tout est tellement plus complexe, une affaire de nuance, de positionnement, de se faire entendre en étant une bonne victime, aussi parce que sinon on n'aurait pas été entendu autrement.
Oui, je pense que Simone de Beauvoir, elle se rendait très bien compte et que c'est pour ça qu'elle a aussi écrit Le deuxième sexe comme elle l'a écrit. Ce qui est fascinant dans Le deuxième sexe, c'est que c'est un livre écrit pour les hommes. C'est écrit avec les outils de la philosophie. On sent que c'est un appel aux hommes. Le deuxième sexe, c'est aussi en ça que je m'identifie avec elle. C'est que moi, à chaque fois que j'écris des livres féministes, j'espère que les hommes vont les lire.
D'ailleurs, votre dernier chapitre, c'est « Il faudrait un peu aimer les femmes ». Donc, c'est un appel aussi aux hommes, comme on l'a entendu à la fin du deuxième texte de Simone de Beauvoir. Espérons, en fait, que ça change du côté des hommes.
Voilà. Mais moi, je m'identifie aussi bien à Gisèle Pellico que aux autres femmes dans ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que la vérité, c'est comment on tient ensemble l'espoir qu'incarne Gisèle Pellico dans cette prise de parole-là, et en même temps, le désespoir qu'expriment ces femmes face ce qui serait suffisant pour ou ce qui panserait les plaies des violences sexuelles. Parce qu'au fond, je veux dire, ces femmes-là, même s'ils avaient tous pris 20 ans, elles auraient eu le cœur brisé. Je suis convaincue que les procès ne suffiront pas.
Et est-ce que la philosophie, ça fait quelque chose? Ça peut changer les choses?
Alors moi, j'espère que oui. Mais c'est vrai que entre la conversation des sexes et vivre avec les hommes, j'ai pris un petit coup derrière la tête sur le pouvoir de la philosophie. C'est-à-dire que et même sur le pouvoir des mouvements sociaux, quand on a toutes et tous eu un espoir que MeToo allait vraiment changer le monde. Et d'une certaine manière, ça a changé certaines choses. Mais quand on voit ces 51 hommes, à quel point ils n'ont pas honte, à quel point très peu d'entre eux voient le problème dans ce qu'ils ont fait, à quel point ils n'ont rien d'autre en commun que d'être des hommes, à quel point tant d'hommes ne se sentent pas concernés par ce procès, etc., c'est un peu difficile d'avoir autant d'optimisme que Beauvoir en avait à la fin du deuxième sexe. Et c'est bien pour ça qu'au début de notre émission, elle dit qu'au fond, elle est hyper déprimée et qu'elle avait eu tort d'être aussi optimiste.
Ne vous en faites pas si je tremble, on est ici pour rigoler. C'est le plaisir qui nous rassemble. Je ne veux pas de votre pitié. Je vous déteste les hommes. Pour vous que sommes, nous en sommes une pauvre chose qu'on nomme une bête à plaisir. Jamais chez vous un seul geste, une attention la plus modeste, vous nous méprisez tout du reste, pour mieux nous avilir. Et quand je chante, je pense à vous dont je me balance, et vos affronts, vos offenses se brisent sur notre fierté. Je vous déteste les hommes. Toujours, toujours. toujours pourvu nous sommes. L'éternelle bête de somme depuis l'éternité. Parfois en me voyant sourire, vous croyez tous à mon bonheur. Pourtant si je pouvais vous dire ce que j'ai là au fond du cœur, je vous déteste les hommes.
Cette chanson, Manon Garcia, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors, j'aurais pu parler de Lévinas oui. en suivant Beauvoir, mais j'ai décidé aussi, pour des raisons politiques, je vais dire, de parler de Hegel. Parce que je pense, enfin pour moi c'est très important que les gens sachent que même les philosophes peinent à lire de la philosophie. Et que moi, j'aime vraiment beaucoup Hegel, mais c'est... vraiment, je sais pas, la face nord des Grandes Jorasses, je sais pas, c'est vraiment un truc, c'est trop dur, quoi.
Vous ne comprenez pas?
Ben, je comprends un peu. En fonction des moments, je comprends 10%, 20%, 25%.
Et encore, vous n'êtes pas sûr, il y a peut-être quelque chose qui
est passé. La grègue, on avait les principes de la philosophie du droit de Hegel au programme. Et je sais que c'est vraiment un livre fondamental pour moi. Et plus le temps passe, plus je le vois. Il y a des choses dans la critique du droit chez Hegel que je trouve très bien. En même temps, c'est un livre extrêmement sexiste et en même temps, il y a des pistes. Mais parfois, j'y retourne, j'essaye de lire un paragraphe. Et vraiment, c'est le seul livre où j'ai pleuré de ne pas comprendre. Récemment, je me suis dit, bon, maintenant, je commence à avoir de la bouteille. Je vais relire la préface de la Phénoménologie de l'esprit. Mais j'ai l'impression d'être complètement débile. Je lis des phrases, je les relis, je les re-relis. Alors après, je lis un commentaire, je dis « Ah, c'est ça que ça voulait dire ?» Ouais, bon, d'accord. Mais c'est vraiment hyper dur.
Et moi, ce qui me fascine, c'est que vous ayez dit « Je l'aime bien, mais je comprends pas ». Comment on peut aimer quelqu'un qu'on comprend pas ?
Bah parce que c'est pas que je comprends rien du tout, c'est que je comprends un peu. Qu'il y a des passages que je comprends bien, que j'ai aussi assisté à des cours. Donc, quand on me l'explique en français pour les nuls, je me dis « Ah ouais, hyper intéressant !» et tout ça. Et en même temps, je soupçonne que l'immense majorité des gens sont dans le même cas que moi, y compris les Hegeliens.
C'est vrai.
Et que c'est pour ça que beaucoup d'Hegeliens écrivent sur Hegel en Hegelien. Parce qu'en fait, il y a guère que, je sais pas, par exemple, Jean-François Kervégan, qui était un grand professeur de Paris 1, lui, il arrivait à parler de Hegel en français compréhensible. Et ça, je soupçonne que c'est la preuve qu'on comprend vraiment le texte extrêmement précisément. Mais moi, maintenant, donc je vis à Berlin, où la théorie critique se porte très bien. Et donc, à chaque fois que mes collègues sont d'accord avec moi, ils me disent « Ah, mais c'est parce que tu crois que tu es kantienne, mais en fait, tu es hegelienne, c'est la preuve que tu as raison. » C'est un peu une sorte de... Et je dis « En tout cas, je ne suis pas hegelienne sur le style, quoi. La science de la logique...
» Non, vous l'êtes lue et comprise.
Oui, ça compte pour moi, vraiment.
Et juste une question, est-ce que vous avez eu Hegel à la grecque ou pas alors ?
Est-ce que je l'ai eu au final ? Non, je suis pas tombée sur Hegel.
Merci beaucoup Manon Garcia. De vous, on peut lire « Vivre avec les hommes, réflexions sur le procès Pellico ». On en a parlé aussi, la conversation des sexes, philosophie du consentement. Tous les deux sont publiés aux éditions Climat Flammarion, ainsi que votre premier livre « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Et pour lire le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, les deux volumes en intégralité.
En folio, ils sont en intégralité.
Voilà, sont disponibles en folio Gallimard.
Merci.
Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Alex Dang à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application de Radio France. Lundi, vous retrouverez à ce micro Géraldine Mühlmann et son équipe pour une nouvelle série d'émissions.